Bienvenue dans Osons l'intime, une chronique portée par Claire et Céline du collectif Féminin Naissance Royan Vercors, dans laquelle on ouvre de nouveaux horizons autour de sujets souvent tabous, relégués au couple, à la famille ou à nos réflexions individuelles. Des partages d'une dizaine de minutes de nos vécus de femmes cisgenres et d'accompagnantes. Bienvenue à toutes et à tous dans Osons l'intime, la chronique où on parle d'intimité sur les ondes de Radio Royan Vercors et où l'on retrouve chaque semaine des membres du collectif Féminin Naissance Royan Vercors. Aujourd'hui, c'est Céline et Claire au micro. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
Et c'est Céline qui nous propose une chronique aujourd'hui sur le parentage proximal. Peut-être qu'on va commencer par expliciter un petit peu le terme.
Alors l'idée, c'est que quand le bébé, il naît tout à fait immature. C'est le seul mammifère à naître en étant si peu fini, parce qu'il a une trop grosse tête et qu'il ne passerait pas s'il restait jusqu'au bout dans le ventre. Et que donc, dans l'accompagnement, l'accueil de ce bébé, on lui offre une continuité de cette vie in utero. On parle de concept du continuum. Il y a d'ailleurs un livre qui existe à ce sujet. Et que donc, on va l'accueillir pour que ce soit le plus doux possible et le plus dans une continuité, je sais pas d'autres mots.
De garder une proximité en fait avec son bébé pour accompagner quelque part.
Lui donner des repères qu'il connaît, le garder dans une enveloppe sécurisante pour que petit à petit il puisse s'éveiller au monde extérieur et recevoir toutes ces informations.
Ouais, pas que la rupture soit trop violente, parce que c'est vrai qu'il a vécu 9 mois dans du liquide, et là, tout de suite, en vrai, il devient terrien. Ouais. Il vit dans le chaud, puis il découvre le froid, il découvre la lumière.
Il découvre la faim. Ouais. Et donc, mon intention, c'est de vous nommer un peu les différentes pratiques qui existent, qui sont assez alternatives, et qui visent, qui ont cette intention-là d'aller dans une douceur, une continuité, une bienveillance, un respect des besoins de l'enfant. Et donc, la première pratique que j'ai envie de nommer, c'est celle du pot à pot et du portage. Donc le bébé, pendant 9 mois, il a été porté, il a été en contact très proche, il a entendu le cœur de la maman battre, ses mouvements intestinaux, et puis tous ses mouvements, la marche, toutes ses activités. Et donc il a été ballotté en continu, bercé en continu. Et donc pour lui, c'est très sécurisant de continuer à être en mouvement et à entendre son cœur. Et donc... le portage vient vraiment soutenir cette continuité-là, et le pot à pot vient le soutenir aussi, à la fois pour ça, mais surtout pour aussi les odeurs et tu parlais de chaleur, de chaud-froid, et la thermorégulation. Donc un bébé qui naît, il n'est pas autonome, il n'a pas un système bien fini pour se réguler au niveau de la température. Et le corps de la mère ou du père ou de n'importe qui d'ailleurs, il est très bien fait. S'il est souvent à proximité du bébé, il va se réguler et s'adapter pour offrir la chaleur qui convient au bébé. Je crois que c'est au Mexique, à un moment donné, il n'y avait plus assez de...
De couveuses,
merci. Et du coup, ils ont proposé une approche qu'ils appellent kangourou, je crois. Portage kangourou, l'idée c'est de rester en peau à peau 24 heures sur 24, de jour comme de nuit, donc la peau contre la peau, sans vêtements, et par-dessus on met des vêtements. Et les parents peuvent s'alterner, et ils ont vraiment vu des résultats bien meilleurs qu'en couveuse. Et donc moi je suis étonnée qu'on ne propose pas ça dans nos maternités, alors qu'il y a une étude scientifique qui montre que cette pratique-là a plus d'effets bénéfiques pour un préma qui est fragile. Il va grandir plus vite, mieux, en étant en peau à peau. Le pot à pot aussi permet d'être vraiment à l'écoute, et le portage, à l'écoute des besoins de l'enfant très immédiatement, et donc de pouvoir répondre assez vite à ses besoins. Et donc j'ai nommé le besoin déjà d'alimentation. Et donc en étant à proximité de son enfant, on peut voir les premiers signes et pas attendre qu'il pleure et qu'il soit en détresse pour répondre à son besoin. Et donc, on peut le mettre au sein assez vite, l'allaiter, si on fait le choix d'allaiter, ou lui donner un biberon. Alors, l'allaitement, lui, quand on parle d'allaitement dans le cadre du maternage proximal, on parle d'un allaitement à la demande, où on va vraiment être à l'écoute des signes du bébé et on va se mettre en lien avec notre enfant comme un enseignant et un guide. Et on va avoir confiance qu'il est capable de nous manifester ce dont il a besoin et que nous, on est capable de percevoir ses signes et ses besoins et d'y répondre. Donc il y a vraiment tout un travail pour moi toute une prise de conscience et une déconstruction et une reconstruction avec notre intuition et notre confiance en nos capacités. Et dans notre société, on a très peu de modèles, et donc c'est vraiment de modèles, et même nous-mêmes, on a la plupart d'entre nous, on n'a pas été allaités ou on a été allaités maximum 3 mois. Donc on a... Dans notre expérience et dans le champ de représentation, on n'a pas de transmission. Et donc, on peut très vite être démuni. Et donc là, j'en profite pour glisser un peu mon warning. Règle numéro 1, un maternage proximal et donc un allaitement n'a du sens que si vous êtes en bienveillance avec vous-même et que vous vous respectez. Et je crois qu'à partir du moment où c'est plus juste, où ça vient trop prendre dans vos ressources, ça vient nourrir du trauma, ça vient vous épuiser, ça vient créer de la tension ou des douleurs, c'est qu'il y a un problème. Alors faites-vous accompagner. Et si vous avez vraiment envie de poursuivre, pour moi, douleur, ça veut dire qu'il y a un problème, et donc ça veut dire qu'il faut chercher des solutions. Un allaitement douloureux, c'est pas normal. Restez pas avec ça. Enfin, il y a plein de choses. Soit c'est que la position en gêne, très, très souvent, c'est qu'il y a une mauvaise position, qu'on vous a appris de faire comme ci ou comme ça, et en fait, la position fait que ça crée des tensions et ça crée des problématiques.
Et peut-être dire auprès de qui, du coup, demander de l'aide si jamais il y a justement un allaitement qui ne se passe pas de manière fluide.
Alors déjà, vous pouvez en parler avec votre sage-femme, mais moi, je vous orienterais plutôt vers la Leche League, qui est vraiment une association qui promeut l'allaitement, qui est gratuite et qui prodigue des conseils par téléphone. Et puis, il y a des formatrices, enfin des conseillères en allaitement qui sont formées par la Leche League et qui sont des consultantes de la Leche League qui peuvent venir à domicile. Et souvent, celles qui louent les tire-laits offrent aussi du conseil et de l'accompagnement et ça peut faire partie du package. Voilà.
Celle qui loue les tire-laits, c'est-à-dire parce que c'est pas en pharmacie qu'on peut louer.
On peut louer en pharmacie, mais on peut louer aussi auprès de conseillères en allaitement qui font de la location de tire-laits. Donc c'est un service beaucoup plus complet. Enfin, en fait, il y a tellement de tire-laits différents avec des fonctionnalités différentes que parfois ça vaut le coup de vraiment avoir un rendez-vous avec quelqu'un pour se faire accompagner, pour mettre ça en place et. Et c'est vrai qu'on a tendance, moi je l'ai fait aussi, de le louer à la pharmacie. Et après, c'est remboursé aussi. Je ne sais plus trop les tarifs, mais ça, je vous laisse vous renseigner. Donc, la règle numéro 2, c'est vous autoriser à réajuster et à changer et de ne pas être psychorigide, de ne pas rester dogmatique et enfermé là-dedans. Gardez votre bon sens, gardez l'écoute de vous-même. Faites-vous confiance et j'aimerais renommer ici ce qu'une femme a partagé à la projection du documentaire sur mon postpartum où elle disait mais la mère sait, et quand j'ai été voir un professionnel et que j'étais avec toutes mes angoisses de est-ce que je fais bien, est-ce que je fais ci, que j'avais toutes les commentaires de tout le monde, mon homéopathe m'a dit mais c'est vous qui savez, il n'y a que vous qui savez, et j'ai trouvé ça tellement bon à rappeler. Alors moi, on me l'avait dit, tout ça, qu'il fallait que je me respecte, que je réajuste et tout. Bon, on n'entend jamais assez.
Pour ça que c'est bien de s'entraîner aussi avant d'avoir des enfants potentiellement.
Oui, et de demander à son entourage de sonner la tirette d'alarme quand il voit qu'on nage dans la semoule et qu'on est complètement dépassé.
Parce qu'il y a aussi cette injonction très forte d'être la mère parfaite, le père le père parfait moins, mais quand même, de voilà, d'être au top avec toutes ces injonctions de maintenant être un bon parent, c'est faire ci, faire ça, comme si c'était voilà, une
et
liste de choses à cocher.
Ouais, c'est très très exigeant, et en fait tout cet accompagnement-là, à l'époque, enfin je sais pas à quelle époque, mais ou quand on pense à d'autres tribus en Afrique ou ailleurs, il y avait justement une tribu et on n'était pas seul. Aujourd'hui, on est très seul en couple avec notre bébé. Dans d'autres milieux, le bébé était allaité pas uniquement par la mère, il pouvait être allaité par une tante, par une voisine, et c'était pas du tout un problème. Il pouvait être porté par un enfant de 10 ans ou par la cousine. Donc c'était forcément beaucoup plus léger parce qu'on n'était pas seul avec. Donc c'est bien sûr à adapter avec notre contexte à nous. Je vais encore citer le cododo, qui est une pratique qui est de plus en plus répandue. De nouveau, il y a des règles de sécurité, que je ne vais pas nommer ici. Mais l'idée, c'est que quand on dort à proximité de son enfant et si on allait, on a tout un système hormonal qui fait que on va se réveiller très vite pour entendre son bébé, on va se rendormir très vite. Le système est assez bien fait. Et que du coup, on va pouvoir répondre à son besoin de sécurité affective, de chaleur, d'allaitement à la demande plus facilement, sans avoir besoin de se lever de son lit, se traîner jusque là-bas, puis de se rendormir. Et puis après, c'est à nous d'écouter. On a envie d'un coup de dos de quoi ? De 40 jours, de 3 mois, de 6 mois, de 9 mois. Enfin, ça, c'est pareil. C'est comment je mets mes limites pour me respecter et être à l'écoute de ce qui est bon pour moi. Et tout à l'heure, je parlais de besoins. Il y a le besoin d'alimentation, il y a aussi le besoin d'élimination. Et une pratique qui est encore assez peu présente ici dans notre société, c'est le HNI, hygiène naturelle infantile. Et c'est l'idée que le bébé émet des signaux pour nous dire qu'il a un besoin d'élimination. Et que nous, en tant que parents, on peut... on peut repérer ces signes et lui proposer d'aller à selle ou d'aller uriner et donc de le mettre au-dessus d'un évier ou d'un petit bol pour éliminer.
Et d'éviter les couches en fait, de ne jamais lui mettre de couches.
Alors, dans notre société, moi je mettais quand même des couches à mes enfants parce que c'est quand même, ça demande quand même une présence très soutenu et que si on devient super stressé parce qu'on a peur qu'il y ait un pipi sur le canapé, ben ça vaut pas le coup. Donc moi je prône la détente avant tout, et donc si pour être détendu il y a besoin de mettre une couche, mettez une couche, et si de temps en temps vous chopez un caca, ben vous serez super fier. Et puis si tout le reste du temps c'est dans la couche, c'est ok aussi. Enfin moi je vraiment
c'est
pas
adapté
de pression
aussi
quoi.
À notre réalité,
ouais,
notre
bien
quotidien.
Sûr. Mais moi, j'ai vu une maman pratiquer le HNI et j'étais scotchée de... Elle repérait les signaux de son bébé et le rythme de son bébé aussi avec le temps. Elle avait remarqué qu'après une tétée, il y avait un pipi. Dès qu'il se réveillait, il y avait un pipi. Donc, il y a aussi des rythmes qui s'installent. Il y a des habitudes qui se prennent. Alors, il y a vraiment des livres qui existent là-dessus pour vraiment accompagner à comment on observe son enfant, comment on lui propose, comment on l'accompagne. Donc, voilà, si ça vous intéresse, il y a de la documentation. Et puis, je voulais terminer avec la DME qui est pour plus tard. C'est la diversification menée par l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant va manger un peu comme l'adulte des morceaux et qu'on va le laisser explorer la nourriture selon son intuition. Et donc, il va pouvoir... s'il est attiré par une pomme, prendre un morceau de pomme et le mâchouiller, absorber le jus. Et donc là, c'est aussi, il y a des livres qui existent à ce sujet, sur tous les sujets d'ailleurs. Vous pouvez trouver pas mal de documentation. J'avais juste envie de le nommer pour que vous sachiez que ça existe. Et que moi, je l'ai souvent fait un peu à moitié. Enfin, ça ne m'a pas empêché de donner des purées, ça ne m'a pas empêché de faire comme tout le monde et à certains moments de laisser manger une pomme ou une carotte. Mais parce que moi, j'étais en tranquillité avec ça et que ça ne m'inquiétait pas du tout qu'il fasse une fausse déglutition, que j'avais une confiance absolue qu'il arriverait à vomir. Peut-être aussi que, comme je suis infirmière à la base, ben je sais que je peux l'accompagner à... Il y a une manipulation pour les aider à vomir s'il y a quelque chose qui se coince. Mais que j'ai aussi, je crois, une confiance en mon enfant où je lui ai beaucoup, beaucoup parlé. Et je pourrais le rajouter dans la liste des pratiques qui sont pour moi pas proximales et bienveillantes, qui devraient être vraiment un conseil en maternité pour tout le monde. C'est parler à vos bébés. Vos bébés sont pas des poupées.
C'est des êtres humains. Bébé signe aussi, mettre en place,
oui,
effectivement.
C'est vrai que j'ai pas nommé
cette,
le bébé signe.
Voilà, il y a un signe pour les choses un peu importantes de la vie des bébés, manger, téter, boire de l'eau, dormir. Et en fait, moi, j'étais bluffée qu'en fait, à un an, ben, l'enfant, il communique vachement. Il communique pas par la parole, mais justement, s'il a ces signes-là, s'il a eu accès, ben, en fait, il les utilise. Et du coup, c'est beaucoup plus simple aussi d'amener une compréhension des adultes envers les enfants. Bien avant que le langage se mette en place, quoi. Moi, j'étais émerveillée et bluffée, quoi.
Oui, et même si lui, dans un premier temps, ne peut pas utiliser les signes, il peut repérer les signes. Ouais, c'est fascinant. Et donc, pour terminer, c'est parler à vos enfants. Enfin, moi, je leur ai beaucoup dit. Tu sais, là, il faut que tu craches. C'est une manière aussi de les accompagner à l'autonomie pour moi. Et c'est un de nos rôles de parents, c'est de les accompagner à l'autonomie et donc de les accompagner face aux risques, face aux peurs, face aux frustrations. Et ça peut commencer tôt. Voilà.
Voire même dès qu'ils sont sortis.
Mais oui, après la frustration dans un premier temps, on va essayer d'abord les premiers mois de répondre vraiment à la demande, mais on n'est pas obligé d'être sur un allaitement à la demande quand l'enfant il a 6 mois. À 6 mois, son estomac il est ouvert, il est capable d'attendre un peu. Donc tout ça est progressif et le taux de frustration il peut augmenter avec le temps. Mais en effet, des frustrations, elle en aura déjà au début. Et donc, c'est pouvoir aussi l'accompagner avec ça et lui dire, je sens que tu es frustrée, tu as dû attendre longtemps, ça devait être difficile, mais tu vois, je suis là. En fait, un bébé, il comprend tout. Voilà, la petite note
la petite
de
conclusion.
Fin. Mon bébé comprend tout.
On parlait donc maternage proximal aujourd'hui dans Osons l'intime, parentage proximal plus largement. Donc ça regroupe un ensemble de pratiques dont tu nous parlais, Céline, le cododo, l'hygiène naturelle infantile, le portage, le pot à pot et bien d'autres encore. Eh bien, merci beaucoup donc pour ce sujet que vous pouvez réécouter donc sur le site internet de Radio Royan, radioroyan.fr, et également sur les plateformes de podcast. À très bientôt à Céline et Claire pour de nouvelles chroniques.
À bientôt.
Au revoir.
Pour de prochaines chroniques Osons l'intime, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Claire et à Céline du collectif Féminin Naissance Royan-Vercors à l'adresse mail suivante féminin-naissance@gmail.com.